Christelle Heuck présente l'Art Nouveau dans Carrefour des Arts.
Carrefour des Arts vous présente le deuxième volet de notre émission sur Chantilly. Lors de notre dernier entretien sur le magnifique château de Chantilly, avec Nicole Garnier, conservateur en chef du patrimoine et chargée du musée Condé sur ce même site, nous avons fait un grand tour de l'histoire de Chantilly et une visite guidée du château, du parc et du musée Condé avec sa prestigieuse collection de peintures. Nous avons à nouveau le plaisir de retrouver Nicole Garnier. Madame Garnier, bonjour.
Bonjour.
Vous proposez cette fois à Carrefour des Arts un éclairage particulier de la Galerie des Batailles. Depuis une dizaine d'années, le domaine de Chantilly a engagé de très importants travaux de restauration entre les murs extérieurs et intérieurs, la toiture, les tableaux, le mobilier, les dorures, etc. Cela a nécessité, je pense, quelques fonds venant de beaucoup d'horizons. Et en dehors des monuments historiques français, le ministère de la Culture, le World Monuments Fund, un organisme dépendant de l'UNESCO et basé aux États-Unis, a aussi largement aidé l'Institut de France à la restauration générale. Et beaucoup d'autres mécènes et bienfaiteurs internationaux ont contribué à cette entreprise phénoménale. Alors, quand et comment a commencé cette fabuleuse réhabilitation du patrimoine? Je pense sur l'initiative de l'Institut de France.
Tout à fait, sur l'initiative de l'Institut de France, il y a 9 ans à présent. La galerie donc avait subi d'importantes fuites dans les toitures. Les toitures avaient été restaurées en 1876 par le duc d'Aumale, le dernier propriétaire du château. Et donc, depuis lors, eh bien, les ravages du temps avaient fait leur œuvre. Et il fallait donc refaire les toitures et donc restaurer le décor intérieur qui avait souffert d'infiltration. Alors, la Galerie des Batailles, elle a une longue histoire. Elle a une histoire qui remonte au XVIIe siècle. C'est la galerie principale du château. On y accède donc par l'appartement du prince de Condé. C'est un décor magnifique, mais qui avait beaucoup souffert des ravages du temps. Et notamment les grandes peintures qui ornent le décor présentaient des soulèvements. Alors ces grands tableaux, il y en a 12. Dont 8 d'entre eux font 9 mètres carrés. Vous imaginez la superficie de toile. Donc des tableaux peints au XVIIe siècle par Sauveur le Comte, peintre de bataille, et par Michel de Corneille. Ces tableaux présentaient des soulèvements. Donc la première en fait campagne de restauration qui est débutée il y a maintenant 9 ans, eh bien, c'était la restauration de ces peintures. Au moment où se mettait en place, dans le cadre d'un chantier financé avec le soutien des monuments historiques, la restauration de la toiture elle-même. Donc parallèlement, on a commencé à restaurer les tableaux qui allaient mal, dont on risquait de perdre des fragments de la couche picturale.
Que Chantilly avait récupéré après la Révolution.
Oui, les tableaux, effectivement, avaient été confisqués pendant la Révolution française, étaient entrés au musée du Louvre, alors Muséum Central des Arts. Et le prince de Condé, donc en 1816, après la Révolution et l'Empire, avait repris une partie de ses trésors. Il avait récupéré ces grands tableaux qui étaient faciles à réidentifier dans les réserves royales, du musée royal du Louvre à l'époque. Et donc ils étaient revenus à Chantilly déjà en mauvais état en 1816. Alors ils avaient subi une opération un petit peu terrible qu'on faisait au début du XIXe siècle, qui avait été mise au point d'ailleurs dans les ateliers du Louvre à la fin du XVIIIe siècle. C'était une transposition, c'est-à-dire que lorsque les tableaux paraissaient abîmés, paraissaient soulevés à cette époque-là, eh bien on procédait à un changement du support des peintures. Ça paraît impossible à faire, mais en fait c'est une opération relativement simple qu'on fait encore aujourd'hui, qu'on est obligé de faire malheureusement, lorsque les tableaux ont été anciennement transposés, et ça consiste en fait à couvrir la toile elle-même, la partie peinte, la partie image, la partie tableau, de couches de papier collé qui maintiennent en fait les écailles de peinture en place. Ensuite, on retourne le tableau et en mouillant le revers de la toile, on retire le support. Et
comme une décalcomanie.
Exactement, comme une décalcomanie. Et donc, on arrive à la couche de préparation et à la couche peinte. Et on vient coller sur cette préparation, donc au revers de la couche picturale, on vient coller une toile neuve. Donc c'est un procédé qui paraissait magique, qui avait été mis au point au XVIIIe siècle dans les ateliers du Louvre sur la collection royale. Et en fait, on s'est rendu compte très vite au XIXe siècle que c'était pas si magique que ça, parce qu'après les tableaux étaient très fragilisés par cette transposition et devaient en fait être conservés dans un climat extrêmement stable. Et vous imaginez bien qu'un décor comme le château de Chantilly au XIXe siècle, eh bien, il n'y avait pas du tout de climatisation, pas du tout des conditions thermohygrométriques comme on en a aujourd'hui dans les musées.
Bien sûr.
Et donc malheureusement, les tableaux ont dû subir, au temps du duc d'Aumale, donc à la fin du XIXe siècle, 2 nouvelles transpositions. Et puis encore au milieu du XXe siècle, puisqu'il n'y avait pas encore de chauffage dans le château à cette époque-là. Donc ce qui s'est passé il y a 9 ans, c'est qu'on a dû procéder soit à des refixages locaux, soit à nouveau à des transpositions de tableaux. Donc il y en a deux d'entre eux qui à nouveau ont vu leur support changer. Puisque malheureusement, lorsque le soulèvement est trop important, on doit à nouveau retransposer le support, changer le support moderne, pour remplacer un neuf, heureusement avec des adhésifs puissants dont on dispose aujourd'hui. Mais c'est quand même une opération très traumatisante pour ces œuvres. Donc cette première campagne de restauration des tableaux, elle s'est échelonnée en fait de 1997 jusqu'à 2003, puisqu'on a essayé en fait que le public puisse continuer à voir pendant cette longue campagne de travaux une partie de la galerie, ou sinon la totalité des toiles, et sinon la totalité du décor, au moins une partie majeure. Donc les tableaux ont été restaurés au fur et à mesure et par différents mécènes, puisque chacune de ces peintures en fait a eu la chance d'avoir le patronage soit d'une grande société, soit d'une société d'amis de musée qui a restauré qui cette toile, qui telle autre.
Il y a même une fondation à Los Angeles,
je me souviens. Il y a les Friends of French Art de Los Angeles, qui sont des mécènes réguliers du musée Condé depuis longues années, avec Madame Van der Lippe, qui ont restauré une des toiles de la Galerie des Batailles. Donc ça a été un des mécènes américains de la galerie, mais on a eu aussi des mécènes français, et on ne peut pas ne pas citer la Société des Amis du musée Condé. Puisque le musée Condé, comme la plupart des musées en France, a une société d'amis, c'est assez naturel.
Comme le Louvre et
voilà, en revanche, celle des amis du musée Condé a une implication très forte dans la restauration des collections. Et donc les amis du musée Condé ont restauré à eux seuls près de la moitié des tableaux de la galerie, notamment le célèbre tableau de la bataille de Rocroi, qui est peut-être le tableau le plus important.
Oui,
puisque
c'est emblématique.
Celui, oui. Voilà, où on voit le grand Condé, donc propriétaire des lieux et commanditaire de la galerie au XVIIe siècle, en train de gagner donc cette bataille par laquelle il va sauver la France de l'invasion espagnole au moment où s'éteint le roi Louis XIII, au moment donc de la minorité du jeune roi Louis XIV, qui est le cousin du grand Condé.
Oui.
Donc ce tableau-là a été restauré par les amis du musée Condé. Mais on a eu aussi différents groupes étrangers qui nous ont aidés. Notamment, le tout premier de ces tableaux a été restauré par American Express dans le cadre d'un partenariat avec le World Monument Fund, car la Galerie des Batailles a eu le triste privilège d'être déclarée un des monuments les plus en péril dans le monde, un des 100 monuments les plus en péril dans le monde. Et donc ils nous ont aidés ainsi à signaler donc l'existence de ce problème au sein de la Galerie des Batailles, et ce qui nous a permis en fait de faire levier et trouver énormément de mécènes américains par la suite. Donc American Express a été le premier, il a pris en charge une peinture, le passage du Rhin, où on voit le roi Louis XIV de face avec le grand Condé qui, par modestie, humblement s'est présenté de dos. Donc il a été restauré de la sorte. Et puis d'autres groupes étrangers se sont joints à nous, notamment le groupe Generali, un groupe d'assurance italien qui est basé en France et qui est un peu spécialisé dans le mécénat des œuvres d'art italiennes, qui a d'ailleurs travaillé sur d'autres sites de l'Institut de France. Notamment, Generali a restauré l'ensemble des peintures de Tiepolo, des fresques de Tiepolo au musée Jacques-Marandré à Paris. Ils interviennent actuellement à l'abbaye de Chailly sur les fresques de Primatis, donc oui, sont des mécènes réguliers de l'Institut. Et Generali, là, nous a accompagnés en restaurant un des tableaux peut-être les plus étranges de la Galerie des Batailles, le seul qui ne représente pas une scène de bataille, c'est le Repentir du Grand Condé.
Tableau de Michel de Corneille.
Tableau qui a été commandé par le fils du Grand Condé en 1691, donc après la mort de ce dernier.
Qui est un tableau presque mystique.
Allégorique, c'est un tableau allégorique, symbolique. Oui. Comme on aimait en faire à la fin du XVIIe siècle, et il représente le grand Condé entouré de deux renommées qui sont en train de, avec leurs trompettes, de chanter les louanges du grand Condé et de vanter les batailles qu'il a gagnées, donc, sur tous les champs de bataille d'Europe. Et le grand Condé en retient une, il a un petit phylactère autour de lui qui est écrit, ce qu'elle est écrit en latin, Sileat, qu'elle se taise. Et en fait, il l'empêche de parler des batailles qu'il a gagnées, ben, ma foi, quand il avait trahi la cause de Louis XIV et quand il avait rejoint le camp espagnol. Une page un peu honteuse de l'histoire du Grand Condé, qui l'avait même fait condamner à mort. Il avait vécu donc quelques années hors de France, hein, jusqu'à la paix des Pyrénées, et Chantilly avait été à ce moment-là confisqué à la famille de Condé. Par la suite, le Grand Condé est rentré en grâce, et donc son fils, le prince Henri-Jules de Condé, a commandé ce tableau, donc en signe de soumission à la couronne de France. Donc grand tableau qui a été restauré par le groupe Generali dans le cadre de cette campagne de restauration des peintures. Et puis alors parallèlement à la restauration du décor peint, il y a une autre campagne de restauration qui a été mise en place, alors essentiellement avec le soutien de l'État. Les travaux ont été dirigés par l'architecte en chef des monuments historiques, Étienne Poncelet, qui est l'architecte territorialement compétent pour Chantilly dans ces années-là. Et il a, avec le soutien de la DRAC de Picardie, avec le soutien de la région Picardie, avec le soutien du Conseil général de l'Oise, notre département, évidemment aussi avec l'aide de l'Institut de France et du domaine de Chantilly, nous avons pu restaurer donc la toiture de la Galerie des Batailles. Ça, c'est une tranche de travaux extrêmement importante, puisqu'à partir de
là, le
décor a été protégé et on a pu donc progressivement restaurer le décor. Alors sur le décor lui-même, c'est-à-dire tout ce qui n'est ni toiture ni peinture, il y a eu une conjonction de mécénat et de subventions publiques, puisqu'on a eu à la fois des aides du ministère de la Culture, de la Direction des Musées de France, des aides de mécènes américains, je pense en particulier à la Fondation Wilson qui nous a aidés, des aides de grands mécènes privés français, Son Altesse le Prince Aga Khan déjà nous a aidés par un don généreux pour mener à bien la restauration de ce décor. Et donc, grâce à tous ces efforts conjugués, eh bien, nous avons pu inaugurer la galerie restaurée eh bien, ce printemps 2006.
Récemment,
après au total 9 ans de travaux avec ces 3 campagnes donc, qui ont été menées tantôt sur le toit, tantôt sur les peintures et tantôt sur le décor intérieur.
Oui.
Donc une œuvre de longue haleine. Et au total, la galerie...
Une fabuleuse aventure.
Et donc on va continuer dans ce chemin-là puisque maintenant la Fondation pour la sauvegarde et le développement de Chantilly s'oriente en fait vers...
Donc
la restauration de la salle voisine qui est la Grande Singerie, donc qui fait suite à la Galerie des Batailles. Donc en fait, on est au début de la restauration de ce grand appartement de Chantilly qui est un des trésors.
C'est ça, petit à petit, pièce par pièce.
On va essayer de remettre en état le trésor des Condés.
Oui. Donc ça a dû coûter une petite fortune.
Ça a coûté beaucoup, beaucoup d'argent, en effet.
Après cette véritable saga de la restauration de la Galerie des Batailles, je vous propose une petite pause musicale. Nous avons suivi avec vous, Nicole Garnier, les travaux de restauration, une longue et coûteuse aventure. Et maintenant, on retrouve cette galerie dans toute sa splendeur. Pouvez-vous peut-être nous relater aussi l'historique de cette belle galerie des Batailles ?
Alors, l'historique de la galerie, eh bien, il commence avec le grand Condé. Hein. C'est Louis II de Bourbon, prince de Condé, qui est le grand prince mécène du XVIIe siècle, à qui on doit notamment le décor des jardins de Lenôtre à Chantilly, qui va commander donc à l'architecte Ardoin Mansart cette galerie des Batailles. Ardoin Mansart, on le sait, c'est l'architecte du château de Versailles également, et il va au début des années 1680 donc réaliser ce décor fastueux pour le prince de Condé. C'est la pièce principale du château et c'est là où par la suite seront accueillis donc les principales têtes couronnées d'Europe qui visiteront Chantilly au cours du XVIIIe siècle. Tous les souverains étrangers se rendaient à Chantilly. Vous savez que lorsque le comte du Nord, c'est-à-dire le fils de la grande Catherine de Russie, s'est rendu en France en 1782 pour visiter l'Europe occidentale, je crois que c'est le prince de Ligne qui disait un petit peu méchamment, pour situer un petit peu le faste des Condés, la façon dont on était reçu à Chantilly, eh bien le roi, on est en 1782, il s'agit donc de Louis XVI, le roi a reçu Monsieur le comte du Nord en ami, Monsieur le duc d'Orléans a reçu le comte du Nord au palais royal en bourgeois, on savait que le duc d'Orléans était connu pour ses idées libérales, et Son Altesse Sérénissime, Monseigneur le prince de Condé, l'a reçu en souverain. Donc ce luxe de Chantilly au XVIIIe siècle, eh bien il est particulièrement illustré par le faste de la Galerie des Batailles, qui est la plus grande salle du château, où est reçu le comte du Nord, donc le fils de la grande Catherine, mais où est reçu également l'empereur Joseph II, frère de Marie-Antoinette, où va être reçu le roi de Suède en 1771. Enfin, toutes les têtes couronnées, tous les grands ambassadeurs viennent à Chantilly et sont accueillis dans cette salle, qui est donc munie d'un décor très précieux, puisque le grand Condé a commandé à la fin du XVIIe siècle.
C'est en quelque sorte une salle de réception.
C'est une salle de réception, c'est aussi une salle à manger, hein, puisque vous savez qu'avant le début du XVIIIe siècle, il n'y a pas de salle à manger dans les châteaux. Et donc, on dresse la table soit dans les antichambres, soit dans les galeries, soit dans les pièces les plus importantes, en fonction du nombre d'invités qu'on a à recevoir. Donc, la plupart de ces têtes couronnées ont aussi déjeuné ou dîné dans la galerie des batailles, bien sûr. Ça peut aussi servir de salle de bal. Donc, c'est un peu une salle à tout faire, à recevoir, oui, lorsque le château est plein, lorsqu'on a des hôtes de marque. Et donc, le grand Condé a souhaité que ce décor soit particulièrement prestigieux. Et il a commandé à différents artistes, donc à Sauveur le Comte, et son fils plus tard commandera également à Michel Corneille, tout un décor peint, donc qui évoque les batailles gagnées par le grand Condé lui-même sur les champs de bataille européens. Alors, les tableaux sont présentés de façon chronologique, depuis 1642 jusqu'au passage du Rhin, jusqu'en 1672, donc plus de 30 ans de batailles gagnées par le grand Condé. Et chaque grand tableau, ils font plus de 9 mètres carrés, hein, chacun d'entre eux, chaque grand tableau présente une campagne, donc une année de bataille avec la bataille principale gagnée par le prince et puis des sièges, des combats annexes qui figurent sous forme de médaillons. Donc on a quelquefois jusqu'à 9 ou 10 batailles évoquées par année. Donc on n'imagine pas, le grand Condé passait en fait sa vie à se battre et aux côtés de Turenne et des autres chefs de guerre du règne de Louis XIV. Donc la galerie est entièrement consacrée à ces hauts faits. Alors on l'appelait au XVIIIe siècle la galerie des conquêtes ou la galerie des actions de Monsieur le Prince, des actions désignant les batailles victorieuses donc gagnées par le grand Condé au cours de sa longue vie. Vous savez qu'à la fin de sa vie, le grand Condé était atteint par la goutte, hein, une maladie qui vient en général ceux qui mangent peut-être un peu trop bien. Le grand Condé était aussi un grand veneur, donc il devait abuser aussi des venaisons, qui sont des viandes particulièrement sensibles pour ceux qui sont atteints de la goutte. Et lorsqu'il se rendait à Versailles, le grand Condé, eh bien, il avait quelquefois du mal à monter l'escalier pour se rendre auprès du roi. Il était appuyé sur sa canne et un jour le roi Louis XIV lui a dit, mais alors qu'il s'excusait de ne pouvoir gagner le roi assez vite, le roi lui dit, mais mon cousin, lorsqu'on est autant chargé de lauriers, on ne peut pas monter très vite un escalier. Évocation donc des batailles gagnées par le prince au cours de sa longue vie. Oui. Et sans rancune pour les batailles qu'il avait gagnées lorsqu'il avait combattu du côté espagnol, hein, puisque le grand Condé, pendant quelques années, pendant la Fronde des Princes, a trahi donc la cause française et s'est rangé du côté espagnol.
Oui.
Et donc à la fin de la vie du prince, tout était rentré dans l'ordre.
Oui, mais puisqu'on est en train de parler des batailles, alors on peut situer peut-être quelques-uns de ces tableaux, parce qu'il y a des tableaux, oui, des batailles entre le siège d'Arras et la bataille de Rocroi qu'on a déjà évoquée, jusqu'au blocus de Paris.
Oui, alors le blocus de Paris, ça c'est peut-être un tableau qui parle le plus aux visiteurs, parce que c'est un tableau finalement très contemporain, c'est un tableau qui représente la ville de Paris durant la Fronde. Alors la Fronde, c'est un épisode qui se situe en 1648-1649, mais en fait, le tableau a été peint en 1694, et Sauveur le Comte, qui est donc le peintre de la galerie, qui est un peintre de bataille du règne de Louis XIV, qui a travaillé avec Van Damelen, nous dépeint en fait le Paris qu'il a connu au moment où il fait ce tableau en 1694. Donc on imaginait qu'on est au sud de Paris, sur une petite éminence, et puis qu'on va à vol d'oiseau, la cathédrale Notre-Dame, les toits du Louvre, toutes les églises principales de la ville, jusqu'à Montmartre, jusqu'au château de Saint-Cloud, résidence des Orléans, jusqu'à Charenton, dont on voit donc les hospices. Enfin, on imagine bien, tous les abords de Paris et les principaux monuments de cette époque-là sont encore très...
Un précieux document historique.
Précieux document également. Historique, oui. Tout à fait. Oui. Donc c'est un tableau que les visiteurs ont toujours éminemment de plaisir à découvrir. Mais il y en a d'autres qui évoquent en particulier le siège de Dunkerque, la bataille de Dunkerque, nous permet de voir l'élévation et le plan en fait de cette ville, ou de découvrir, par exemple, avec la bataille de la Franche-Comté, différents sites français bien connus des visiteurs qui se rendent à Chantilly.
Oui.
Donc c'est aussi un tour de France, et puis de Hollande aussi un petit peu, puisque la plupart des batailles gagnées par le Grand Condé se situent donc à la limite de la France et de la Hollande.
Oui, mais il y avait aussi la conquête d'Alger.
Mm-hmm. Alors c'est pas Alger, c'est Acher, en fait, c'est la ville espagnole, hein. Non loin.
Ah oui.
Oui, 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 c'est pas Alger, mais Acher.
Ah d'accord. Et donc le siège de Lérida.
Voilà, on est en Espagne, oui, en fait, avec, oui, Lérida et Acher. Oui. Et donc c'est aussi un lieu où le grand Condé a eu à combattre.
En effet, oui. Et tous ces tableaux sont peints par...
Alors Sauveur le Comte, oui, évoqué, qui est un grand peintre de bataille, qu'on connaîtrait sans doute davantage s'il n'était pas mort prématurément à 35 ans, sans doute d'une chute d'échafaudage. Sauveur le Comte, en fait, c'est l'artiste qui va succéder à Van Damelen, le peintre de bataille bien connu de Louis XIV, à la tête de l'atelier des Gobelins. Donc l'atelier des Gobelins qui est spécialisé dans la réalisation de ces scènes de bataille. Donc Van Damelen succède au peintre qui meurt en 1690. sauf le comte succède à Madame Hélène qui meurt en 1690, il va avoir accès à l'atelier de son maître. Il reprend donc les dessins préparatoires réalisés par Van Damelen et par son équipe, car c'est toute une équipe nombreuse. Hein, la peinture de bataille, c'est souvent des très très grandes machines. On travaille à plusieurs artistes sur les échafaudages.
Est-ce que je peux vous interrompre une seconde? Parce que pour bien rendre ces tableaux à nos auditeurs, radiophoniquement, ce sont de très très grands tableaux.
Oui, ils font 3 mètres par
3. Avec une image au centre et puis plusieurs médaillons
voilà,
autour.
Tout à fait.
Donc chaque tableau est vraiment une œuvre assez importante.
Oui, et plusieurs tableaux pourrait-on dire, puisqu'ils contiennent des différentes compositions qui n'ont pas d'autre rapport entre eux qu'historique et chronologique. Et donc ces grands tableaux sont réalisés dans l'atelier des Gobelins. En fait, ça va être l'œuvre majeure de Sauveur le Comte, qui va mourir très jeune, hein, 34-35 ans. Il va donc disparaître de la scène, et on peut penser que beaucoup de tableaux qu'on attribue à Van Damelen ou à son atelier eh bien, sont des Sauveur le Comte, mais... En fait, on connaît surtout de lui l'œuvre qu'il a réalisée à Chantilly parce qu'on en a les archives, on a les commandes, on est sûr qu'il s'agit de lui, mais il a dû réaliser aussi d'autres commandes de façon peut-être un peu plus modeste et anonyme.
Oui, ça c'est toujours la question des attributions.
Oui, à Chantilly l'attribution est certaine évident. Car on a gardé les commandes passées par le Grand Condé et les factures donc, qui lui ont été réglées.
Et puis en dehors des tableaux, il y a évidemment aussi un mobilier très intéressant et des objets d'art. Il y a un vase de chasse.
Alors oui, il y a un vase très extraordinaire qui est en porcelaine de Sèvres, qui est un vase qui a été offert par le roi Louis-Philippe à son fils, le duc d'Aumale, lorsqu'il était jeune encore, donc avant la révolution de 48. Et ce vase, on l'appelle le vase des chasses parce qu'il présente sous ses différentes faces des scènes de vénerie, l'occupation principale des seigneurs de Chantilly depuis le Moyen-Âge. Et l'une de ces scènes de vénerie, eh bien, se déroule en forêt de Chantilly. C'est la chasse du comte du Nord. Donc, on évoquait tout à l'heure l'accueil fait à Chantilly du fils de la grande Catherine de Russie. Eh bien, il y a eu aussi une chasse à cour qui a été offerte lorsque le comte du Nord était à Chantilly. Et donc, c'est cet épisode qui est peint sur une des faces du vase. Alors, je suppose que c'est pour cette raison que le roi Louis-Philippe a souhaité offrir à son fils ce chef-d'œuvre. C'est un très grand vase qui fait plus d'1,50 m de haut, qui est placé sur un superbe piédestal qui porte l'effigie du Grand Condé et son profil bien reconnaissable. Oui. Donc c'est un des monuments de la galerie de Chantilly qu'on peut voir aujourd'hui au cœur donc, de cette galerie qui vient d'être restaurée. Mais il y a bien d'autres mobiliers importants dans la galerie des batailles.
Oui, une table boule, superbe.
Une table boule qui est peut-être l'un des 3 seuls meubles que Chantilly conserve des trésors des Condés avant la Révolution. En effet... Le château a été entièrement vidé de ses trésors pendant les heures noires de la Révolution. Le château a été détruit. Des œuvres ont été vendues ou transportées au Louvre, ensuite envoyées dans des musées de province où on n'a pas toujours pu les récupérer, bien sûr. Et donc, très peu de meubles venaient du château tel qu'il était sous l'Ancien Régime, au temps des Condés, avant 1789. Et peut-être que cette table boule, elle, oui, provient du château des Condés.
Oui, mais qui est vraiment un chef-d'œuvre.
Les 2 autres meubles provenant de cette période fastueuse de notre histoire, eh bien, c'est la table du cep de vigne qui se trouve aussi dans la galerie des batailles. Alors, la table du cep de vigne, c'est un plateau rectangulaire en loupe d'orme, en fait, et non pas en cep de vigne, comme on le croyait. Et cette table, elle a appartenu au Montmorency. Elle porte la devise des Montmorency. Donc là, on remonte au XVIe siècle.
Oui.
Et on sait qu'elle a transité par le château des Coins, autre propriété des Montmorency. Donc c'est vraiment un mobilier qui appartient à l'histoire des Montmorency, puis des Condés, donc quelque part à l'histoire de Chantilly. Et puis le troisième meuble qu'on a pu récupérer après la Révolution, que les Condés ont pu reprendre, eh bien lui, il n'est pas dans la galerie des batailles. C'est le meuble minéralogique qui évoque cependant les heures fastueuses de Chantilly et le cabinet d'histoire naturelle, car il y avait à Chantilly, au bout de la galerie des batailles précisément, un cabinet d'histoire naturelle, un cabinet des sciences, et on peut imaginer que la fin du XVIIe siècle, c'est le siècle des Lumières, bien sûr, que les princes, que le roi, à cette époque, s'intéressent donc aux sciences naissantes, l'époque de l'encyclopédie, bien sûr. Et il y a au bout de la galerie des batailles une enfilade de 3 pièces où on conserve eh bien, des minerais précieux, des échantillons zoologiques, animaliers, etc. On s'intéresse à la nature, on s'intéresse aux sciences, à la zoologie, à l'entomologie, etc. Et donc le roi de Suède, qui avait visité en 1771 Chantilly, avait fait construire, avait fait dessiner, bâtir et envoyer par voie d'eau au prince de Condé, pour le remercier de son accueil à Chantilly, un meuble minéralogique, un minéralier, qui est une sorte de grand... bureau d'âne gigantesque avec un abattant dans lequel le prince de Condé pouvait collectionner les minerais précieux. Alors ce meuble-là, il a été comme les autres récupéré au moment de la Révolution, annexé aux collections nationales. Il est venu au Louvre. Les minerais précieux eux, sont entrés au Muséum d'histoire naturelle où ils sont toujours. Mais ce meuble tellement extraordinaire et sur lequel sont collés en partie haute des minerais, eh bien, il est revenu à Chantilly en 1816 après la Révolution et l'Empire. Voilà comment nous avons au moins trois meubles qui peuvent évoquer la gloire
aussi,
des Condés.
Il y a aussi un magnifique bureau à cartonnier.
Alors oui, dans la galerie des batailles, il y a deux bureaux cartonniers. L'un qui vient du château de Vaux-le-Vicomte, qui a été acheté en Angleterre par le duc d'Aumale. Donc un cartonnier, c'est un bureau de ministre en fait. Hein. C'est donc une table dans un premier élément, une table plate. Et puis il y a à côté de cette table plate, donc ce qu'on appelle le cartonnier lui-même, donc une sorte de meuble où le ministre, c'est en général des bureaux de ministre, pouvait placer ses dossiers, tous ses documents. Alors il y en a un donc, qui vient du château de Vaux-le-Vicomte, qui est de style néoclassique, et puis l'autre qui est peut-être le plus étrange, c'est le cartonnier de la Livre de Julie, que le duc d'Aumale a également acquis en Angleterre, d'ailleurs à la même vente publique. Alors la Livre de Julie, Angelerand, la Livre de Julie, c'était un personnage bien connu au XVIIIe siècle, c'était l'introducteur des ambassadeurs du roi Louis XV. Il y a une sorte de chef du protocole qui introduisait donc les ambassadeurs auprès du roi. Et ce personnage, qui était très cultivé, très amateur d'art, eh bien, s'intéressait beaucoup aux fouilles archéologiques qui commençaient à ce moment-là. On est autour de 1754-1756. Et on est en train de fouiller pour la première fois à Pompéi et Herculanum, ces villes antiques donc recouvertes par les cendres du Vésuve, bien sûr. Et donc, la Livre de Julie s'intéressait à ces fouilles, connaissait notamment les gravures, les dessins qui reproduisaient donc les objets qu'on était en train d'extraire de ces fouilles. Et il s'était fait faire pour son bureau à Paris, donc de ministre, il s'était fait faire tout un ensemble mobilier qui évoquait ces pièces antiques, ces lits de repos à l'antique. Alors, pour cela, son cartonnier, eh ben, il est muni d'une tête de lion en bronze. Les pieds du meuble, ce sont des pattes de lion en bronze doré. Également, il y a un motif à la grecque sur la partie où on classe les dossiers. Enfin, tout évoque l'antique.
Oui.
Alors, on est en 1754 et 1756. Si ce meuble avait 20 ans de plus, il serait tout à fait dans l'air du temps. Il serait dans l'époque néoclassique. Mais là, on est encore à l'époque rocaille, à un moment où les ébénistes fabriquent encore, les menuisiers fabriquent encore des meubles à pieds chantournés, à pieds courbes. Donc c'est un meuble qui a 20 ans d'avance, en quelque sorte. C'est quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque part un monstre et un chef-d'œuvre. Donc le duc d'Aumale a eu la chance de pouvoir acquérir en Angleterre. Et il l'a fait bien sûr rentrer en France. Hein. C'est ça la grande idée force du duc d'Aumale, qui achète toujours des œuvres d'art françaises qui, comme lui, sont exilées à l'étranger. Il faut les faire rentrer sur le sol national. Très belle idée.
Mais qui était également un grand connaisseur.
Voilà. Voilà.
Il n'achetait pas n'importe quoi.
Et non. Alors ce cartonnier de la Livre de Julie, d'ailleurs, on peut le voir dans un tableau célèbre qui est conservé à Washington, à la National Gallery de Washington. C'est un tableau d'un artiste célèbre, de Greuze, qui a fait le portrait de la Livre de Julie. Et on le voit donc jouer de la harpe dans son bureau, avec autour de lui donc le bureau, le cartonnier, le fauteuil et la bibliothèque. En fait, tout le mobilier était du même style. On conserve aujourd'hui que le bureau et le cartonnier et la pendule qui sont à Chantilly.
Oui. Donc un autre rêve.
Oui, un autre rêve.
Oui. Il y a également des ateliers de restauration à Chantilly. Est-ce qu'ils sont réservés à la restauration exclusivement des œuvres conservées à Chantilly?
Oui, nous restaurons sur place la plupart des œuvres effectivement qui doivent subir une restauration. Donc il y a un atelier de restauration des peintures, il y a un atelier de restauration des dessins où sont traités notamment en ce moment les derniers dessins de Clouet que nous sommes en train de restaurer.
Très très délicat, oui.
Très délicat et puis très onéreux et qui est pris en charge par les amis du musée Condé qui est jusqu'à présent qui était notre principal mécène, hein, cette société d'amis qui nous aide beaucoup depuis des années, qui a fêté son 30e anniversaire en 2001.
Où on peut toujours d'ailleurs adhérer.
Bien sûr, ce qui donne l'entrée libre au musée Condé, ce qui permet aussi de nous aider à restaurer les collections. Les amis du musée Condé, au moment de leur 30e anniversaire, en 2001, ont décidé de nous aider à restaurer les Clouets de Chantilly, donc cette galerie de portraits dessinés du XVIe siècle. Et donc ce type de restauration, oui, est fait sur place, dans nos ateliers. On a aménagé donc des ateliers dans les combles du Grand Château, dans les chambres de service en fait, du duc d'Aumale, ce qui nous permet aujourd'hui de restaurer sur place l'essentiel de nos collections.
Oui. Donc tout un ensemble absolument magnifique. Pouvons-nous conclure, Nicole Garnier, en disant peut-être un mot du rayonnement de Chantilly?
Alors le rayonnement de Chantilly, eh bien, disons que Chantilly ne rayonne jamais assez. Hein. Chantilly, c'était au XVIIe, au XVIIIe siècle, un symbole quasi royal. Les princes de Condé étaient célèbres par leur luxe. Aujourd'hui, c'est un musée de qualité internationale grâce au legs que le duc d'Aumale a fait envers l'Institut. Hein. C'est une collection de peintures de très haut niveau. Nous avons un nombre de peintures relativement limité, 850 tableaux, mais toutes d'une qualité extraordinaire. On est le seul musée de France à pouvoir se targuer de posséder 3 Raphaël, 4 Watteau, 5 Nicolas Poussin originaux, 5 tableaux d'Ingres, 3 Delacroix. Donc une collection de peintures extrêmement importante Très célèbre aussi par les reproductions qu'on peut en voir, mais comme le duc d'Aumale nous a interdit de prêter les collections hors de Chantilly, eh bien, il faut venir à Chantilly les y découvrir. Chantilly, c'est aussi une collection de livres extraordinaire. C'est une grande bibliothèque, c'est aussi un magnifique cabinet de dessin que le duc d'Aumale nous a légué. Donc, de par le rayonnement de Chantilly, de par l'importance de Chantilly, je crois que l'Institut a là un joyau inestimable qu'il faut faire connaître encore davantage au grand public, notamment au public étranger.
Oui, depuis l'arrivée, quand on voit ce château, comme je disais dans l'autre émission, comme sorti tout droit d'un conte de fées,
oui,
sur
c'est
ce miroir d'eau, et puis le grand escalier, enfin il faut imaginer vraiment un château merveilleux, et puis le site, et puis à l'intérieur, donc vous nous avez vraiment gâté de vos descriptions, parce qu'on a fait un petit rêve avec vous, outre le voyage.
Pour rêver encore, le duc d'Aumale disait que le château de Chantilly était comme un cygne endormi sur le lac.
Voilà, ben, c'est une très très belle conclusion qui me conduit une fois de plus à vous remercier.
C'est moi qui vous remercie.
Nicole Garnier, pour votre vraiment précieux accompagnement en ces lieux chargés d'histoire et de beauté. À très bientôt au Carrefour des Arts sur Canal Académie.
Merci.